École normale supérieure, savoir en multimédia.
J'ai envie de dire que Sartre aurait aimé être des Amériques, qu'il n'a pas pu, et que quelque part il y a chez Sartre une espèce de nostalgie de ce que nous, les Antilles, moi je suis de la Guadeloupe, l'Amérique, le Brésil, les États-Unis, représentons. C'est-à-dire quoi? Au fond, un continent qui est fabriqué par les trois autres. L'Amérique, c'est l'Europe, c'est l'Afrique, c'est l'Asie, dans un quatrième continent. Et par exemple, moi qui suis de la Guadeloupe, voilà, tel que je suis là, devant vous, je suis à mon intérieur, en ce que je suis de l'Europe, de l'Afrique, de l'Inde, donc l'Asie, et évidemment tout cela en Amérique, avec aussi l'héritage de nos ancêtres amérindiens. Ça fait beaucoup, mais ça fait aussi tout de suite une espèce d'ouverture vers ce qu'on peut appeler l'universel. Et je me souviens d'une phrase de Sartre dans Les Mots. J'ai beaucoup relu Les Mots lorsqu'ils ont été publiés, parce que j'ai l'impression qu'on y découvre beaucoup de choses sur tout ce qui, dans la pensée de Sartre, relevait d'une soif qui peut-être n'a pas été étanchée par ce qu'il était, puisqu'au fond, il était européen. Et il n'était pas africain, et il n'était pas asiatique, et il n'était pas américain. Il y a comme une espèce de regret de cette totalité que nous représentons, cette espèce de tissage sur ce que René Depestre appelle le métier à métisser, qui est donc très dur, qui se fait par douleur, par violence, etc., mais qui finalement aboutit à faire ce qu'on peut appeler une synthèse avec tous les débris de monde qui sont venus dans cette Amérique, et notamment dans nos Antilles, qui sont un peu comme une arche de Noé de l'humanité. Les mots, j'avais noté cette phrase, 2 milliards d'hommes et moi, seul vigie. Et je retrouve dans la fascination de Sartre pour Césaire, cette phrase du tout jeune Césaire, poète, qui disait « Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point une bouche ». Sans doute un des vers les plus célèbres d'Aimé Césaire dans le cahier d'un retour au pays natal écrit à 24 ans. Eh bien, je crois que Sartre, c'est ça. C'est quelqu'un qui a voulu que sa bouche soit la bouche des malheurs qui n'ont point une bouche et qui s'est plongé dans l'explication, l'analyse et la solidarité avec ce qu'on a appelé à ce moment-là le tiers-monde, c'est-à-dire les autres que l'Europe. Le problème de Sartre, c'est qu'il il se croit eux-mêmes et que les autres, ben, ce sont les autres. Les autres, ce sont d'autres. Les autres, ça ne peut pas être lui. Et donc, il y a comme une fascination pour ces autres qu'il a envie d'embrasser et en même temps, une incapacité à considérer qu'il est tout simplement lui aussi un autre des autres et qu'il n'est pas si à part que ça et que son destin n'est pas d'assumer toutes les turpitudes de l'Europe, mais d'être totalement en accord par la simple solidarité qu'il affiche avec ses autres, être en accord avec eux sans avoir besoin de dire « j'ai le regret de ne pas être vous ». Et ça, c'est la rencontre avec la poésie d'Aimé Césaire, la rencontre avec la poésie d'Haïti, avec la poésie de ceux qui ont écrit la fameuse anthologie de la poésie nègre et malgache recueillie par Senghor, mais avec 14 poètes des Antilles sur les 17 poètes, 3 Africains, 14 Antillais. Ça a un sens. Ça voulait dire qu'à ce moment-là, cette dimension d'universalité, elle était portée par les Antilles. Elle était portée par la bouche sera la bouche des malheurs, qui n'ont point de bouche, c'était une bouche américaine. Au même temps où aussi, la bouche musicale était portée par le jazz des États-Unis, le jazz de ces Noirs américains. Et portée, où ça? À New York, mais évidemment à Paris, l'autre capitale du jazz dans ces années-là, et qui contredit, là encore, cette vision que pouvait avoir Sartre de dire « Oh là là, il y a un océan qui nous sépare, je ne pourrai jamais être cela », alors que le jazz avait traversé pour lui dire qu'il est partie prenante, là aussi, de l'Europe, qu'il est lui aussi né d'un métissage entre l'Europe, les Amériques, l'Afrique, et que ça n'est pas du tout, comme disait Sartre, à consommer sur place dans un là-bas qui serait le signe d'une altérité inaccessible pour celui qui serait européen. C'est ça que Sartre a compris, a vu, ça a été peut-être une contradiction permanente dans toute sa vie, de vouloir respecter l'autre en raison même du mal que lui, prenant à sa charge toute l'histoire européenne, aurait fait à cet autre. Et donc, au mieux, c'est demander pardon, au mieux, c'est dire, ben, je vais vous soutenir, Et comme il le disait aussi, contre moi-même. Et là encore, je ne peux pas m'empêcher de retrouver une phrase des mots. C'est moi-même qui suis mon témoin à charge. Et vous vous souvenez à la fin, cette habitude que j'avais de penser systématiquement contre moi-même. Sartre était avec ses poètes, il était avec ses écrivains, il était avec ses jazzmen qui étaient chez lui. Et pourtant, il a passé une espèce de vigilance à en parler avec un respect qui pouvait être le danger du respect, c'est qu'on peut aussi tenir en respect l'autre, c'est-à-dire le tenir à distance pour ne pas l'abîmer, pour ne pas l'aliéner. Et c'est quelque chose que Sartre a eu le génie de poser. Il s'est mis là-dedans et il a voulu être la bouche de ceux qui n'ont point de bouche, en oubliant, alors que c'est lui qui l'a montré dans sa grande préface, eh bien que c'est ceux qui n'avaient pas de bouche ont pris leur propre parole, ont pris la parole, ont affirmé des choses, et non pas en l'affirmant au nom des Antilles, mais au nom même de l'universel. Le Césaire que cite Sartre dans cette extraordinaire préface Orphée Noir qui a fait le tour du monde, on avait demandé à Sartre pour cette anthologie de gens totalement inconnus un petit témoignage, donc deux pages pour avoir son nom. Sartre a lu tous les poèmes sans exception. Il les cite presque tous dans son étude. Et grâce à lui, Orphée Noir a été, son texte à lui, traduit en anglais, traduit en espagnol, discuté en Afrique du Sud, discuté au Nigeria avec le prix Nobel Soyinka, qui était un jeune homme à l'époque, et a été à la source de tout un tas de réflexions, et en particulier à la source d'une prise de conscience par Frantz Fanon de sa propre identité, en critiquant justement de Orphée Noir quelque chose qui était d'une trop grande distance entre ce que Sartre appelait le blanc et le noir, l'européen et l'africain, le même et l'autre. Dans son contact avec donc, nos Amériques, donc plus particulièrement avec Césaire, avec la poésie des Haïtiens, avec le jazz, il y a un certain nombre de choses que Sartre a apprises, et puis d'autres qu'il n'a pas pu trop comprendre, même des décennies après en écrivant les mots. C'est d'abord la question de la peau. Sartre a un rejet de la peau blanche. Ah, c'est noir, lumineux, le soleil noir, non pas de leur mélancolie, mais de leur dynamisme, rend pâle notre peau blanche, et alors, avec des mots, maillot blanc usé au coude, chair humaine face à la chair humaine, couleur de vie, qui est la chair noire. Ça n'est pas ça que ressentaient les Noirs qui étaient avec lui. C'était qu'au contraire, ils s'étaient battus pour qu'on aille au-delà du masque des peaux à la chair commune de ce que Césaire appelait nos géographies cordiales. Eux, ils le savent. Eux, ils le vivent et n'ont pas besoin d'être reconnus en tant que noirs de peau, mais en tant que, par exemple, nègres ayant une situation sociale, politique, anthropologique et même géographique, puisqu'après tout, la couleur de peau, c'est le soleil qui la donne, et ce n'est que ça, et non pas comme des gens qui seraient donc entièrement à part et qui seraient donc le négatif du blanc. Or, Sartre commence par ça. Et donc, il y a un certain nombre de remarques. Par exemple, ce n'est pas pour nous qu'ils écrivent, nous. Ah, évidemment, puisque Sartre il prend en charge l'Europe et son colonialisme. Alors qu'il est au contraire celui qui fait le pont, qui fait le chemin et qui accueille ces gens, il leur dit, nous vous avons... Ça, c'est la fameuse mauvaise conscience qui a été, je crois, quelque chose, c'est Sartre, dont il n'a pas pu se séparer et qui... Au moment même où il fait dans le texte des analyses qui manifestent cette compréhension, il y a toujours le petit retrait. Attendez, moi je suis du mauvais côté, moi je suis du côté blanc, etc. Et si cette peau pouvait se bronzer un peu à votre contact, qu'est-ce que je serais content. Mais quand on lit les mots là encore, on voit que là aussi, c'est quelque chose par lequel il a commencé et que déjà dans les mots, il part de cette peau trop blanche qu'il aurait voulu enlever. Donc, ce que lui apprend cette poésie, c'est justement aller au-delà du masque des peaux. Ce que lui apprend l'autre qui aura un grand dialogue avec lui, c'est évidemment Frantz Fanon, c'est justement qu'il faut aller au-delà de cela. Peau noire, masque blanc, peau blanche, masque noir, Ce qui compte, c'est d'aller au-delà, encore une fois, de la peau, qui n'est rien d'autre qu'un masque, mais le masque qui a cette particularité que personne ne peut l'enlever. Et le masque qu'on ne peut pas enlever peut apparaître comme étant justement la réalité identitaire, alors qu'il est aussi un masque que le reste, que le masque du carnaval. La deuxième chose que, dans le dialogue de Sartre avec, avec Césaire, avec ces gens de Orphée Noir, c'est sur le plan du politique. Alors évidemment, puisque l'autre est accueilli, Sartre veut lui donner toute la place en se retirant. Le même fait place à l'autre. Et ce faisant, il donne à l'autre tout pouvoir de le contester. Et c'est cette fameuse phrase dans Orphée Noir. Le moment de la négativité implique ce racisme antiraciste qui est le seul chemin qui puisse amener à l'abolition des différences de race. Sartre demande à l'autre de faire comme lui, c'est-à-dire comme le « nous » européen, encore une fois. Et donc, puisqu'il y a eu la colonisation, puisqu'il y a eu le racisme, eh bien, chacun son tour. Et aussi, donnons droit à l'autre, à son racisme. Et un jour, thèse, antithèse, synthèse, nous serons tous de la chair véritablement humaine. Je vous disais que Sartre d'Orphée Noir cite pratiquement tous les poèmes. Tous les poèmes disent le contraire. Tous les poèmes disent « Nous avons dépassé la ségrégation. Nous avons dépassé la colonisation. Nous avons dépassé l'assignation dans laquelle on nous mettait. Nègre colporteur de révolte, tu connais tous les champs du monde. Tu connais tous les chemins du monde. » Et Sartre le cite. Et ce n'est pas au nom de la négritude. Et quand Césaire, quand il cite le cahier, il dit « Qui suis-je ?» À 23 ans, quatrième page de son premier texte, le cahier, « Je suis un homme juif, un homme pogrom, un homme de Harlem qui ne vote pas, un homme hindou de Calcutta. » Et quelque part, cette affirmation que ce noir parle au nom du monde, donc au nom aussi de ceux qui en Europe contestent la colonisation, contestent l'étiopétude de l'Europe, comme cela s'est toujours fait, Sartre a du mal à le voir parce qu'il a tellement le souci de l'autre, le souci de l'écoute de l'autre, eh bien qu'il parle à sa place et qu'il lui assigne quelque part une fonction qui est une fonction unique de contestation du même, tout en citant l'inverse. Autre chose, c'est évidemment, et Sartre le dit dans Orphée Noir, ce qui fait qu'ils aient réussi à faire ça, ces Noirs, à être parole pour tous, noir, blanc, jaune, vert, c'est parce que c'est la parole de la poésie. Et là encore, Sartre parle de la langue du même, donc le français, langue du colonisateur, et dit, ah, quel malheur, quelle nostalgie, voilà, avec des mots de France, ce cœur qui m'est venu du Sénégal. Comment le dire? Mais ça, c'est ironique quand il cite le poème. Le poète qui a écrit ça à Haïti, Léon Lalo, c'est pour dire, vous voyez comment je peux vous faire des dizaines, des alexandrins, etc. Vous avez cru m'aliéner avec une langue, je l'ai transformée en langue de liberté, en langue de libération, grâce, évidemment, à ce qui libère la langue, c'est-à-dire la fiction, c'est-à-dire la poésie, c'est-à-dire l'art, c'est-à-dire la littérature. Vous voyez, la palette du peintre se libère lorsque le peintre invente sur son tableau. Et c'est Sartre lui-même qui avait dit dans « Qu'est-ce que la littérature ?»« Le livre ne sert pas ma liberté, il la requiert. Le livre ne sert pas ma liberté, il la requiert. La langue ne sert pas à la liberté, même si c'est la langue maternelle, elle la requiert pour que je sois poète, quelle que soit ma couleur, mon origine, ma ville. » Donc l'affrontement de la langue est ce qui fait le destin, l'origine, l'originalité, la force du poète. Et donc, quelque part, cette langue, elle n'est pas à Sartre, elle n'est pas au colonisateur, elle n'est pas à la France, et elle est encore moins à l'État colonial, elle est encore moins celle du colon, elle est déjà, lorsqu'elle se fait poésie, une langue de liberté, une langue de libération, ce qui fait que l'espagnol, l'anglais, le portugais et le français, les quatre grandes langues de la colonisation, sont devenues, dans notre tiers-monde, des langues extraordinaire d'expression de nos libérations et en même temps de nos identités. C'est ça le message lu par Jean-Paul Sartre dans cette anthologie qu'il a lu, relu et dont il va tirer les conséquences avec toujours encore une fois cette retenue qu'il a et qui en quelque sorte l'empêche d'aller jusqu'au bout de cette fraternité partagée. Et pourtant, il le reconnaît. Parlant d'Aimé Césaire, de son engagement, il dit « Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que, je cite, « la race s'est transmuée en historicité ». C'est-à-dire, Sartre voit juste, mais a du mal à le reconnaître pour lui-même, où à chaque fois, il se dit par précaution, en quelque sorte, respectons-le et n'allons pas trop vite dans la solidarité, la fraternité qui risque encore une fois d'aliéner celui qui, en apparence, serait contre un « nous » absolument inexistant. Parce que Sartre n'est évidemment pas responsable des turpitudes de la colonisation. Il y a aussi une autre chose qui est, je crois, fondamentale dans le lien entre ces poètes et Sartre, c'est qu'ils lui ont fait découvrir que l'identité ne se résume pas à une espèce d'unité, unité de langue, donc une langue contre une autre, comme il le dit à propos des langues africaines, ils ne peuvent pas parler en langues africaines, donc c'est dommage, ils ont une nostalgie. Non, non, parce qu'ils ont inventé une poésie, et dans une langue qui était donc la leur. Et donc, à propos de cela, j'ai commencé comme ça, les quatre continents qui constituent l'Amérique sont la preuve, y compris pour Jean-Paul Sartre lorsqu'il le visite, et puis je crois que vous allez en parler pour les villes par exemple, la preuve de ce que l'identité est toujours un tissage, et toujours, comme l'a dit Lévi-Strauss en même temps, un bricolage. Et que donc, il n'y a pas de pureté du même, il n'y a pas de pureté de l'autre, il y a une seule chose que dit Césaire à Sartre, c'est le proche. Et que c'est le proche en nous qui est véritablement la quête politique de solidarité et qui assure les vraies fraternités et non pas le respect d'une différence qui serait la plus absolue. Sartre ressent cela, mais il a du mal parce que je crois tout simplement, il a du mal à être poète. Et que donc, lorsqu'il... parce que le poète est celui qui fait la synthèse, justement, entre la contrainte de la langue, sa grammaire, son vocabulaire, tout ce qui empêche de parler. Une langue, c'est fait pour empêcher de parler, pour empêcher d'exprimer un certain nombre de choses, pour contraindre à un chemin qui serait le chemin unique. Et en même temps, c'est ce qui donne tous les moyens d'y échapper, par, encore une fois, par la fiction, par la poésie, par le conte, par l'art, par le fait de jouer, de tricher, de voler, et de triturer en quelque sorte cette langue pour qu'elle devienne écriture, pour qu'elle devienne langage. Sartre le sait, Sartre le dit lui-même, et quelque part, il est celui qui montre ce travail qui a été fait, et quelque part, celui qui à un moment se met sur le bord du chemin pour dire non, je ne peux pas aller jusque-là à reconnaître ma proximité très grande avec eux, parce que je tiens en quelque sorte à les respecter, parce qu'ils sont poètes, et que moi, Sartre, je ne le suis pas. L'autre chose politique très forte, là aussi, qu'il a apprise, mais qu'il a du mal, là aussi, parce que ma bouche de moi, Sartre, hein, depuis tout petit, la vigie, qu'il disait, sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Et qu'est-ce qui se passerait si ces malheurs qui n'ont point de bouche se mettaient à parler? Or, c'est le message fondamental d'Aimé Césaire dans le discours sur le colonialisme et dans la lettre à Maurice Thorez, donc 56 à peu près. Aucune pensée ne vaut que repenser par nous et pour nous. Et c'est d'une révolution non pareille dont je vous parle, d'une révolution copernicienne, tant est ancrée en Europe, l'habitude de penser pour nous et de nous dénier en réalité le droit à la responsabilité. C'est quelque part, on peut bien dire là, Sartre, lisant cela, vous imaginez quelque part, il dit mais alors, en effet, je n'ai pas parlé pour eux, mais peut-être à les écouter dans ce qu'ils disent. Comme il a écouté les poèmes dans cette préface, où je répète, il les cite presque tous, sans en tirer quand même l'ultime conclusion, parce que derrière Sartre, il y a quand même quelqu'un qui est celui qui parle plus, peut-être, que celui qui écoute. Et donc, il a un discours. Et le dernier exemple que je vais citer, c'est évidemment avec Frantz Fanon. C'est pour moi un des plus beaux dialogues qui puisse exister. D'ailleurs, on l'avait joué avec Denis Podalydès à la Comédie française dans l'année des Outre-mer. Le dialogue dans Peau noire, masque blanc, donc, et dans l'Orphée noir de Jean-Paul Sartre, où, vous savez que Frantz Fanon était pas seulement un idéologue, mais pas seulement un psychiatre, mais aussi un poète. Et aussi quelqu'un qui parlait, comme Sartre d'ailleurs, avec sa propre subjectivité, c'est-à-dire qu'il osait le jeu. Et dans le texte magnifique au milieu de Peau noire, masque blanc, il interpelle Jean-Paul Sartre. Dans Orphée noir, il dit... Oh, tu nous demandes d'être raciste, antiraciste. Celui qui était sans doute celui de nos amis sur lequel nous comptions le plus venait de porter un coup mortel à notre combat. Parce que quelque part, il disait, mais non, nous n'avons pas besoin, nous avons déjà, notamment grâce à toi, fais le pas d'une humanité au-delà du masque des peaux, et tu nous le redemandes. Et Fanon ajoute, je me mis à pleurer dans un texte connois, masque blanc théorique, je me mis à pleurer. Parce que, mais comment pourrais-je persuader Jean-Paul Sartre que nous sommes frères et qu'au-delà de la couleur des peaux. Et alors au moment où lui meurt, c'est-à-dire après 52 et 58, 1960, eh bien, Frantz Fanon, dans son hôpital de Rome, appelle Jean-Paul Sartre. Il dit à Claude Lanzmann, il lui donne la commission, il lui dit, dites à Sartre de venir me voir. Et Sartre fait le voyage en train avec Simone de Beauvoir pour écouter, ben oui, les dernières volontés de ce leucémique qui allait mourir quelque temps après. Et ce leucémique lui dit, pour l'Europe, camarade, pour le monde, il faut que nous changions, il faut que nous avancions. Pour le tiers-monde, pour le monde, pour l'Europe, il précise bien, en dernière page de Les damnés de la Terre. Et Sartre écoute, toute la nuit, ils passent ensemble. Simone de Beauvoir dit à Sartre, vous êtes fatigué, on connaît un peu l'histoire. Mais elle est belle parce que Fanon dit, mais non, qu'est-ce que cette histoire de fatigue? Moi, je suis un mourant. Et Sartre, il faut que ça soit transmis par cette plus grande figure pour Fanon, de celui qui peut transmettre à l'Europe ce message, qu'un message de fraternité, de solidarité, de combat à faire en commun. Et Sartre retourne, et dans sa préface, eh bien là encore, il refait un petit peu du Sartre, il dit ça, mais en même temps, il dit non, c'est contre nous, cette violence, elle doit être utilisée pour nous détruire de tout le mal que nous avons fait. Et il y a quelque part, et c'est très pathétique, une espèce de dévoiement où par avance, Fanon avait déjà dit, Sartre, vous n'êtes pas un Européen blanc coupable des turpitudes de votre pays ou de votre civilisation. Nous sommes ensemble parce que le même et l'autre sont dans cette fraternité de tout temps et de tout lieu. Et il n'y a aucune unité qui ferait que du colon jusqu'aux lumières, il s'agirait en fait d'une espèce d'hypocrite répartition des rôles de gens qui n'auraient qu'une idée en tête, qui serait de dominer le monde. C'est ça que Sartre retient en quelque sorte, mais j'ai envie de dire, il le retient, mais il ne le dit pas. Et c'est sans doute dans son fort intérieur qu'il y a eu cette profonde connivence avec ses musiques, avec ses gens, avec cette poésie. Et je le vois tellement fortement que je ne peux pas m'empêcher de citer pour finir le texte que, dans cette grande étude d'Orphée Noir. Eh bien, Sartre a été poète. Sartre écrit des choses qui sont carrément de la poésie en prose, en parlant, évidemment, de son frère Aimé Césaire. Et il suffit d'écouter, on dit, mais là, il a compris. Là, il n'est plus le Sartre, ou alors le petit Jean-Paul, vigie, proche, prêt à respecter l'altérité de l'autre, mais nous sommes dans un nous qui n'est plus le nous des Européens coupables, mais qui est le nous des créateurs, le nous des résistants. Le nous de ceux qui veulent changer le monde avec ce que Césaire appelait la force de regarder demain. Et Sartre, il est avec. Il n'a pas besoin de se mettre à côté. Et c'est peut-être ce que lui-même reconnaît à travers ce portrait qu'il fait de la poésie d'Aimé Césaire, qui est pour moi un poème en prose. Césaire a choisi de rentrer chez soi à reculons, puisque cette Eurydice, puisque c'est lui qui a inventé cette idée, ce sont des Orphées qui vont chercher leur Eurydice. Puisque cette Eurydice se dissipera en fumée si l'Orphée noir se retourne sur elle, il descendra le chemin royal de son âme, le dos tourné au fond de la grotte. Il descendra au-dessous des mots et des significations. Pour penser à toi, j'ai déposé tous mes mots au monde piété. Au-dessous des conduites quotidiennes et du plan de la répétition. Au-dessous même des premiers récifs de la révolte, le dos tourné, les yeux clos, pour toucher enfin de ses pieds nus l'eau noire des songes et du désir. Et s'y laisser noyer. Alors désir et rêve se lèveront en grondant comme un raz-de-marée, feront danser les mots comme des épaves et les jetteront pêle-mêle, fracassés par le rire. Un poème de Césaire éclate et tourne sur lui-même comme une fusée. Des soleils en sortent qui tournent et explosent en nouveau soleil. C'est un perpétuel dépassement. Il ne s'agit pas de se rejoindre à la calme unité des contraires, mais de faire bander comme un sexe l'un des contraires du couple, noir-blanc, dans son opposition à l'autre. Alors la densité de ces mots jetés en l'air comme des pierres par un volcan, c'est cette négritude qui se définit. Voici l'apothéose des poux de la misère noire sautant parmi les cheveux de l'eau, île au fil de la lumière, craquant sous les doigts de l'épouilleuse céleste, l'aurore aux doigts de rose, cette aurore de la culture grecque méditerranéenne arrachée par un voleur noir au sacro-saint poème homérique et dont les ongles de princesse en esclavage sont asservis soudain par un toussaint l'ouverture à faire éclater les triomphants parasites de la mer nègre. L'aurore qui soudain se rebelle et se métamorphose, verse le feu comme l'arbre sauvage des blancs, lance flamme, arme de savant, arme de bourreau, foudroie de son feu blanc, le grand titan noir qui se relève intact éternel pour monter à l'assaut de l'Europe et du ciel. Eh bien, on a envie de dire merci et bravo de cette complicité, de cette réunion de proches qui est un peu symbolisée par ce lien que Sartre a pu avoir avec Aimé Césaire, avec les poètes des Antilles, avec ces poètes qui représentaient, encore une fois, dans l'Arche de Noé que nous sommes déjà, une postulation d'universalité. Et je terminerai avec une phrase de Sartre, que tout ça est naturel. Il l'avait vu, il l'avait dit dans « Qu'est-ce que la littérature ?» L'important n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons de ce qu'on a fait de nous. Quelle meilleure définition sartrienne de ce qu'était tout ce grand travail de décolonisation, tout ce grand œuvre de poésie qui n'est pas du tout une étrangeté, une altérité, mais qui est tout simplement la continuation de ce que l'homme fait un peu partout, c'est-à-dire, encore une fois, à partir de ce qu'on a fait de lui, fabriquer de la liberté.